Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground.
Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent les parcours de conception de nos familles. Vous entendrez aussi et surtout des familles homoparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de nos quotidiens qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien.
Vous écoutez l'épisode numéro 18 du podcast Les enfants vont bien. Nous avons tous une vision de notre famille, de celle que l'on imagine, souvent depuis très jeune. Natacha, elle, savait qu'elle désirait intensément un enfant, mais qu'elle n'avait pas besoin, pas l'envie, d'être accompagnée dans cette maternité. Ce modèle, elle le connaissait déjà, puisque sa maman était une maman solo. Mais Natacha n'est pas pour autant toute seule à élever son enfant. Elle s'est entourée et c'est bien là l'essentiel. Elle a apporté à sa fille des figures d'attachement fiables et pour cela, elle a rejoint sa maman afin d'habiter ensemble dans une maison intergénérationnelle. Comme si elle l'avait pressenti, cette maternité a été une révélation pour elle, tant et si bien que l'arrivée de sa fille Opaline a signé la fin de sa vie professionnelle d'avant pour écrire celle d'après. Aujourd'hui, Natacha est psychologue, spécialiste en périnatalité. Elle accompagne des couples ou des parents solos, avant, pendant et après bébé. Elle est pratiquante du maternage proximal et en perçoit toutes les richesses. Sa relation avec sa fille est exceptionnelle, épanouie et équilibrée, et il n'y a pas à dire, elle rayonne. Natacha est un bel exemple de réussite d'une maternité solo assumée. Je vous invite à découvrir ce témoignage enrichissant sur une forme de parentalité que l'on rencontre de plus en plus. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonsoir Natacha.
Bonsoir Constance.
Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible et je suis ravie ce soir de découvrir ton histoire et ton parcours. Est-ce que tu peux m'expliquer qui tu es, de qui est composée ta famille et me raconter un petit peu ton parcours ?
Alors, je suis Natacha Busbach, je suis psychologue en périnatalité et spécialisée en parentalité. J'ai 32 ans et je suis la maman de Opaline, qui a bientôt 28 mois et que j'ai fait, que j'élève globalement toute seule. Voilà.
D'accord.
Et que j'ai eu par PMA en étant en Belgique, en vivant en Belgique, en étant belge.
D'accord. Donc là, tu es en Belgique, là, actuellement.
Alors non, plus maintenant. En fait, j'ai déménagé de Belgique justement de par mon statut de maman solo il y a 9 mois. Mais jusqu'il y a 9 mois, j'ai vécu à 1 kilomètre de là où ma fille a été conçue et où j'ai accouché.
D'accord, ok. Ok, donc toi, c'est voilà. En tant que maman belge que tu as pu accéder à la PMA et donc maman solo que tu as pu accéder à la PMA en Belgique, c'est ça ?
Alors, ça aurait pu être le cas, mais c'est pas exactement ce qui s'est passé. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, j'étais en couple. Parce que l'État belge permet l'accès à la PMA aux mamans solo qu'à partir de 32 ans. Et moi, ça ne m'était pas possible de me dire que, pour une question d'âge, je ne pouvais pas accéder à une parentalité que j'espérais depuis que j'avais 18 ans. Et donc, en fait, j'étais en couple et ce couple avait eu comme projet d'avoir un enfant parce que même si je me suis toujours projetée comme maman solo, on n'est pas versé là-dedans. C'est pas un truc qui est socialement très courant. Et donc, j'ai quand même toujours essayé de créer ça. Il s'avère que ça n'a pas fonctionné et qu'en fait, on a enclenché le processus de PMA ensemble, mais que très vite, j'étais seule à tenir le truc à bout de bras. Et quand je suis tombée enceinte, en fait, on s'est séparés juste avant. Donc voilà, j'ai poursuivi les inséminations sans être en couple.
D'accord, ok. Ok, alors tu me disais que donc depuis tes 18 ans, tu rêvais d'être maman et que tu t'étais projetée maman solo. Tu peux me raconter un petit peu quel était ton cheminement en fait ?
Alors en fait, c'est assez facile dans le sens où moi, j'ai grandi avec une maman qui m'avait élevée globalement toute seule. Alors bien sûr, j'ai un papa et avec qui je m'entends plutôt bien, mais qui était toujours très loin. Non seulement à cause de la distance physique, parce que ma mère a déménagé quand j'avais 9 ans de Paris pour aller vers la Belgique, et mon père est resté en France. Et nos relations étaient un peu tendues à l'époque, jusqu'à ce que je sois adulte en fait, c'était un peu tendu. Mais donc ma mère a tout géré toute seule, a tout assumé toute seule, etc. Et c'est quelque chose que j'ai très bien vécu globalement, et que voilà. Et en fait, ma mère m'a toujours dit quelque part que grâce au fait d'avoir été une maman solo, elle avait toujours pu faire des choix de façon très libre. Et j'ai un peu grandi là-dedans. Donc pour moi, voilà, c'était facile quelque part de pouvoir élever un enfant seul puisqu'il n'y avait pas de compromis à faire, de discussions interminables pour des décisions à faire.
Oui, puis tu avais un modèle qui avait fonctionné finalement.
Oui, j'avais un modèle qui avait fonctionné. J'ai été élevée dans beaucoup de bienveillance, etc. Donc pour moi, c'était relativement chouette.
Et donc, ça s'est confirmé.
Et jeune. Ouais, ça s'est confirmé. Et jeune, en fait, j'ai voulu avoir des enfants. J'ai été en couple pour la première fois, une histoire qui a duré 3 ans quand j'avais 17 ans. On a parlé de bébé déjà à ce moment-là. Je me suis inscrite sur le fameux forum Homo et Parents, évidemment. Donc ça, c'était en 2006. Mais ouais.
Ah oui, 2006.
Ouais, bah ouais. Ouais, ouais, ouais. Et donc, moi, j'ai fait partie des premières, pas des premières, il n'y en avait déjà pas beaucoup, mais j'ai vu beaucoup de gens évoluer là-dedans. Et donc, très, très vite, j'ai été familière avec les termes issus de la procréation médicalement assistée.
D'accord. Et du coup, je suppose que quand tu as lancé, quand tu t'es lancée, en fait, tu avais des idées très arrêtées, parce que ça faisait plus de 10 ans, finalement, que tu réfléchissais à ça, que tu étais plongée dedans.
Ouais, c'est ça. En fait, j'ai été plongée dedans pendant très longtemps, et puis j'ai eu un couple qui a duré 4 ans où c'était un peu différent, où la relation de couple était très différente, et ne laissait pas de place à avoir un enfant à ce moment-là. Et donc, c'est un truc sur lequel je me suis assise pendant quelques années. Et quand cette grosse séparation a eu lieu, j'ai en fait, moi, repris mon cheminement vers ça en me disant « mais moi, c'est vraiment ça dont j'ai envie, j'ai vraiment... » envie d'avoir un enfant, j'ai vraiment envie de partager ça, etc. Et donc, je me suis relancée là-dedans. Et il s'avère que, 10 ans plus tard, l'accès à la PMA était beaucoup plus facile. Surtout pour moi, on était en résidente belge avec la nationalité belge.
Oui.
Oui, voilà. Puisque ça prend en charge, la mutuelle prend en charge certaines choses en Belgique. Et que, globalement, à partir du moment où on a les accords, on peut avoir globalement assez facilement accès à la PMA.
D'accord, donc en fait, la Sécurité sociale belge prend en charge une partie de la PMA des couples homosexuels.
Ouais, c'est ça. En fait, si tu veux, ce serait un peu comme si on est considéré comme un couple infertile comme les autres, et donc, ou comme une femme infertile comme les autres plutôt. Et en fait, on a accès à nos rendez-vous, si tu veux, des rendez-vous gynéco de contrôle, etc., de suivi, où on est remboursé à moitié. Les mutuelles belges sont un peu moins généreuses qu'en France. On est remboursé à moitié. Par contre, pour tout ce qui est, par exemple, les paillettes, on les paye le même prix que tout le monde, ça, par contre. On paye... Moi, j'ai payé 270 euros. Et voilà.
Oui, c'est ça, c'est le prix des paillettes. D'accord.
Ouais, c'est ça. Voilà.
Et alors, donc, donc, forte de cette immersion dans le forum, notamment, et donc... Est-ce que tu peux me dire quels étaient tes choix, du coup ? Est-ce que tu savais déjà par quelle clinique tu voulais passer ? Par quel type de processus ? Est-ce que tu peux me raconter tout ça ?
Alors, le fait est que moi, je me suis toujours vue passer par une insémination artificielle avec donneur, en sachant qu'à 20 ans, on m'a diagnostiqué avec des ovaires polykystiques. Et qu'à l'époque, on m'a dit « Oh bah vous, madame, malheureusement, vous serez probablement infertile naturellement. » et vous devrez passer par une fécondation in vitro.
Ah oui, sans tenter le...
Ou assez dur au moral.
L'insémination. Ah bah oui, tu m'étonnes.
Ouais, c'est ça. C'est ce qui m'avait été dit au départ. Ouais. Et donc, en fait, de mon côté, le temps passant, je me suis dit l'évolution de la gestion des traitements faisant, je me suis dit que je pourrais quand même tenter l'IAD et que de toute façon, on ferait un bilan de fertilité et qu'on verrait très bien comment ça se passerait.
Oui, effectivement.
Voilà. Et donc, en fait, on a refait un bilan de fertilité, etc., quand ça s'est présenté. Et on a, j'ai pu avoir accès simplement, pour commencer en tout cas, à une insémination avec donneur. Parce que les autres systèmes familiaux que j'avais pu voir, la coparentalité et des choses comme ça, ne me convenaient pas en tant que telles.
D'accord. Oui, tu as eu le temps de vraiment réfléchir à tout ça.
Oui.
Tu t'es orientée vers quelle clinique du coup ?
Alors en fait, l'avantage que j'ai eu, c'est que autour de moi, j'ai quand même pas mal de mamans en couple homosexuel, dont une qui était très proche et qui a été très proche pendant une grande partie de ma vie, qui venait de faire son second enfant dans son couple à la clinique du CHR de Namur, et avec le taux de réussite était excellent. Les suivis étaient réellement excellents aussi, et les résultats. Et je me suis dit, pourquoi pas. En plus de ça, j'habitais à moins de 20 minutes. Après ça, j'ai déménagé à moins de 5 minutes. Du coup, c'était plutôt facile.
Impeccable. Oui, clairement. Voilà. Clairement. C'est situé... Alors, je suis pas très forte en géographie. C'est situé où, Namur, en Belgique ?
Alors, c'est la capitale de la Wallonie. Et alors, on est dans le sud du pays, à 45 km de Bruxelles au sud.
D'accord, ok. Donc, ça parle français.
Ouais, tout à fait. Je sais que vous avez été à Charleroi.
Oui.
Et c'est à 45 km de Charleroi aussi.
D'accord, oui, c'est vraiment tout près. C'est surtout pour pouvoir situer pour pour les auditeurs qui souhaiteraient passer par Namur. C'est vrai que moi, je connaissais pas, hein, voilà, je vais être transparente. Du coup, ça peut être une option.
Ah ben, complètement. En plus, c'est hyper accessible. Ça veut dire que c'est à la sortie d'une autoroute. Et il n'y a pas tant de monde que ça.
Oui, oui, effectivement. Et c'est vrai que pour avoir été à l'époque, moi aussi, sur le forum Homo et Parents, j'en ai pas forcément entendu beaucoup parler. Donc, je suppose que oui, ça reste accessible, que les délais doivent être raisonnables aussi.
Ah bah alors, c'est ça qui est fou de mon côté. C'est qu'en fait, moi, j'ai décidé de me lancer en octobre. Et on m'a dit premier rendez-vous en décembre. Et je trouvais ça déjà court.
D'accord. T'as appelé en octobre et on t'a proposé un rendez-vous en décembre.
Oui. Et moi, j'ai trouvé ça déjà assez rapide, en fait.
C'est hyper rapide. Quand tu vois que d'autres cliniques proposent des délais...
Alors attends, 3 semaines plus tard, ils me rappellent. Ouais, mais 3 semaines plus tard, ils me rappellent, ils me disent finalement, vous pouvez venir la semaine prochaine.
C'est vrai ? Waouh ! C'est dingue.
Voilà.
C'est dingue. D'accord, donc du coup, octobre, ça te fait que tu y allais quand mi-novembre ?
Alors, le premier rendez-vous est daté du 21 novembre. Et j'étais dans mon cycle hyper raccord parce que, par exemple, j'ai fait mon hystérosalpingographie le 2 décembre.
Ah oui, effectivement. En fait, voilà. Et en fait, sur Namur, tu peux juste appeler, ils te donnent un rendez-vous instantanément et ensuite ils t'envoient. Non, c'est suite à ce rendez-vous-là que tu as le dossier d'examen à faire, en fait.
Oui, c'est ça. Tu as tous les dossiers d'examen, tu as les rendez-vous avec la psy que tu dois faire, parce qu'en Belgique, on doit de toute façon aussi passer par des rendez-vous avec une psy. J'en ai fait deux. Et puis après, tu as tout l'accord d'examen à faire, oui.
D'accord. Donc, tu fais tes examens donc à partir du 2 décembre, notamment sur l'hystérosalpingographie. Quand est-ce que tu as eu un deuxième rendez-vous gynéco derrière ?
Alors, j'ai eu un autre rendez-vous de gynéco après, et en fait, juste avant les vacances de Noël, ils m'ont dit « Ok, tout est ok, il n'y a aucun souci, on commence en janvier. »
Excellent, génial. Et tu as commencé en janvier ?
J'ai commencé en janvier sur un cycle naturel, parce qu'ils avaient envie d'essayer de voir comment est-ce que fonctionnaient mes ovaires, parce que j'avais en effet des ovaires polykystiques, mais je n'ai pas le syndrome qui va avec, et donc ils voulaient voir ce qui se passait.
D'accord. Et ce premier cycle ?
Alors, ce premier cycle, il a commencé en étant anovulatoire.
D'accord.
Il n'y a rien qui se passait. Et donc, après 17 jours, ils m'ont mis sous clomide, 50 mg. Et là, j'ai ovulé.
Donc, sur le cycle suivant ?
Non, sur le même cycle,
en fait. Dès 17 jours ?
Ouais, dès 17 jours, ils m'ont
commencé. Sur le même cycle, d'accord.
Ouais, c'est ça. Et j'ai ovulé, en fait. Ils ont testé de faire une insémination qui n'a pas fonctionné.
D'accord. Et alors, pardon, parce que le protocole me paraît étonnant. Donc en fait, tu as été sous chlomide pendant quelques jours et tu as ovulé au bout de combien de temps ? Tu as eu un cycle super long ?
J'ai eu un cycle très long, en sachant qu'à la base, moi j'avais des cycles à l'époque qui duraient entre 21 et 23 jours, ce qui était très court.
Oui, c'est très court.
Ouais. Et en fait, comme ça n'ovulait pas, ils ont voulu voir si en déclenchant, ils pouvaient déclencher quelque chose et ça a fonctionné et ça a déclenché une ovulation.
D'accord, ok. Ok. Donc du coup, tu t'es relancée de suite sur un deuxième cycle ?
Oui, tout à fait. Et en fait, j'avais quand même capté un truc, c'est que bizarrement, j'avais mes règles très vite. Et donc pas 14 jours, comme normalement c'est la phase qui est standard dans un cycle, mais après 10 ou 11 jours.
Oui, tout à fait.
Donc pour moi, ça voulait dire qu'il y avait un problème.
Oui, clairement.
C'est ça. Et en fait, on a relancé sur ce cycle-là. Et ce cycle-là n'a, avec le même dosage, pas du tout réagi correctement. Ils m'ont fait une super grosse frayeur. Ils m'ont peut-être annoncé peut-être que j'avais fait une grossesse extra-utérine. J'ai eu la chance de passer un...
Ouh.
Ouais. J'ai eu la chance de passer un mardi matin, je me souviendrai très bien, à 8h du mat. J'avais déjà les pieds dans les étriers et le cul nu, hein, ça on est habitué pour les endovaginales.
Oui.
Et de voir la gynécologue rentrer avec une corde de 5 étudiants.
Génial.
Voilà. Ouais, c'est ça. J'ai pas très pudique, mais bon, voilà, 8h du matin, c'est un peu franc. Et de voir rentrer la gynéco, faire son échographie, laisser la porte ouverte du bureau, qui était juste dans la pièce d'à côté, et dire « Oh, avec Madame Butpac, on sait pas ce qui se passe, ça a l'air vraiment compliqué. »
Oui, c'est rassurant tout ça.
Ouais. Voilà, grosse ambiance ce jour-là, très très grosse ambiance. Ils m'ont refait une prise de sang pour en effet vérifier pourquoi est-ce que j'avais du espèce de liquide dans l'utérus qu'ils ont pris pour une grossesse extra-utérine et finalement c'était juste rien. Voilà, juste un site planté. Voilà. Et alors j'ai eu le truc qui était, je crois, le plus drôle après ce petit discours de la gynécologue là, une infirmière qui m'a dit avec tout son amour. Qui m'a dit, mais écoutez, si vous avez fait des câlins ce week-end, peut-être que juste on a raté l'ovulation.
Oui, elle n'était pas très au courant de ton dossier du coup.
Alors, c'est ça. Et donc, je lui ai dit, alors oui, de faire des câlins, en effet, ce fut le cas, mais j'ai peu de chances que ce soit efficace. Elle me dit, mais si, il ne faut pas être négative, enfin, madame.
Bon.
Ce à quoi elle a répondu, écoutez, madame. Mais si, il faut vraiment pas être négative, je fais écouter avec une femme, je peux essayer tant que je veux, vraiment ça ne fonctionne pas.
C'est marrant qu'elle ait eu cette réaction-là, parce qu'en Belgique, pour le coup, c'est ouvert, donc elle aurait pu se douter. Enfin, tu vois, c'est pas évident que c'est un couple hétéro qui se présente en PMA, quoi.
Non, mais c'est ça qui était très, très, très étonnant, parce que moi j'ai vu pas mal de couples en plus en salle d'attente qui étaient homo. Alors, c'est pas la majorité, clairement, hein, mais il y en a. Mm-hmm. Après, est-ce que c'est parce que je suis particulièrement féminine ? Par exemple, je ne sais pas, parce que je ne suis pas du tout cliché, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, voilà.
D'accord. Bon. Donc, du coup, on détermine que tu n'as pas fait une grossesse extra-utérine, que ce cycle-là n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'ils mettent en place comme protocole pour faire fonctionner, pour résoudre le problème des ovaires polykystiques ?
Rien, en fait. Ils me disent, écoutez, de toute façon, le gros problème qu'on a, c'est qu'en Belgique, on doit avoir 4 stimulations par comprimé avant de passer par des stimulations par injection, qui coûtent beaucoup plus cher.
D'accord.
Et donc, on va faire ces 4 stimulations, parce qu'on est obligé, et que on verra bien après quel traitement on pourra mettre en place.
D'accord.
Donc, on part là-dessus, on recommence exactement le même protocole, qui, ça dit en passant, m'a fait prendre 3 kilos alors que c'est des doses infimes et que j'étais d'une humeur atroce pendant ces traitements-là. Et en fait, il s'avère que, bizarrement, au cycle suivant, j'ovule.
Ah, bon, déjà, écoute.
Voilà. Et donc, j'arrive le 29 mars, un jour où j'étais vraiment de super bonne humeur. Vraiment, je le sentais super bien. J'étais vraiment hyper heureuse et tout ça. J'ai fait des photos dans la salle d'attente sur Snapchat en faisant des trucs débiles ce jour-là. Mm-hmm. Et j'ai pris en photo la salle d'insémination en disant, ça se trouve, ça fera un souvenir dans son carnet de naissance. Et je me suis fait inséminer. Et voilà, j'ai fait des selfies... sur la table d'insémination, d'ailleurs, selfie qu'on peut retrouver en illustration d'un de mes derniers articles sur ma page Instagram.
Excellent. Et alors, comment ça s'est passé pour cette insémination? Enfin, le cycle a fonctionné, c'était bon signe, c'est selfie?
Ah oui, le cycle a super bien fonctionné. Ben ouais, ben complètement, complètement. Et en fait, ce qui est fou, c'est que moi, j'avais insisté par contre pour avoir de l'utrogestan, c'est-à-dire de la progestérone, parce que j'avais capté que si mon cycle était trop court, avec toutes les connaissances que j'avais, c'est que j'avais probablement un défaut de progestérone. Et ça ne m'avait pas été recommandé, et moi, je l'ai demandé.
Et ils te l'ont donné?
Ouais, tout à fait.
Ah, mais c'est génial. C'est génial que tu aies réussi... Pardon. C'est génial que tu aies réussi à déterminer que tu avais ce problème-là, parce que c'est pas donné à tout le monde, en fait. Hein.
Je crois que c'est le fait d'avoir farfouillé pendant très longtemps sur des groupes de PMA qui m'a mis la puce à l'oreille, quoi.
Ouais, comme quoi, ça, c'est très important aussi de partir renseigner, hein, et pas à l'aventure complète.
Non, ça c'est clairement... Mm-hmm.
Et comment tu as vécu toutes ces inséminations, ces inquiétudes, ces questionnements en étant du coup seule? Donc, est-ce que tu pouvais partager avec quelqu'un? Est-ce que tu avais tenu informé ta famille? Comment ça s'est passé pour toi?
Alors, à ce moment-là, j'étais en train de mettre un terme à ce couple-là. Mm-hmm. Et ça a été un peu compliqué à ce moment-là aussi. Ma mère était au courant de tout depuis le départ. Mm-hmm. Elle m'avait d'ailleurs promis que j'aurais un petit garçon. Finalement, non.
Raté, mais bon. Voilà. C'est pas très grave.
C'est ça, mais très bien. Voilà, on a un clan de filles, on a poursuivi le clan de filles, très bien. Voilà. Et donc, j'ai eu pas mal de soutien de ce côté-là. Maintenant, je me suis vraiment dit à un moment que mon corps me faisait défaut et que j'ai toujours eu un rapport assez compliqué avec mon corps plus jeune. Et je me suis dit, si en plus il n'arrive même pas à me faire un enfant, vraiment, ce serait vraiment pour moi très compliqué, quoi.
D'accord, oui, parce que, enfin, oui, je peux comprendre complètement. Mais bon, en tout cas, ok, il y avait les ovaires polykystiques, mais malgré ça, en 3 inséminations, ce qui est quand même, en gros, la moyenne de réussite, ça a fonctionné.
Même pas, en fait, hein. Même pas, parce qu'en fait, j'ai eu une insémination, un cycle avorté et une deuxième insémination.
Oui, un cycle avorté. Oui, donc finalement, 2 inséminations, c'est génial.
Ouais. Ah oui, complètement. Moi, j'ai trouvé ça fou. En plus, les gynécos n'ont jamais compris, du coup, mon profil hormonal, mais ça a fonctionné.
Bah, ils n'ont pas eu le temps de le comprendre, en fait, je pense. C'est surtout ça.
C'est ça.
Donc, alors, ensuite, donc, en Belgique, comment ça se passe, le suivi de grossesse? Enfin, t'es suivi par le même centre ou tu bascules sur un suivi classique en cabinet?
Alors, j'ai basculé exactement sur le même un suivi classique, totalement.
D'accord.
En sachant que le gros problème que j'ai eu, moi, c'est que j'étais un peu très informée sur le sujet, et donc j'ai eu la trouille d'avoir un œuf clair.
Ouais.
J'ai pris conscience très vite que j'étais enceinte, j'ai senti tout de suite, donc quand j'ai fait le test urinaire, voire même la prise de sang, je sentais qu'il y avait un truc qui se passait, donc pour moi je savais que c'était bon, et en effet c'était bon, mais j'avais une trouille bleue de faire une fausse couche.
Oui, moi je crois que c'est une inquiétude qu'on a finalement toutes, parce que la fausse couche, on sait que ça n'arrive pas qu'aux autres, loin de là. Et surtout sur une première grossesse, enfin je pense qu'en fait sur toutes les grossesses finalement on en a peur, mais alors la première... qu'est-ce qu'on est flippé.
Oui, ça c'est clair, vraiment. C'était vraiment mais énorme comme crainte que j'avais. Et j'ai en fait simulé des douleurs à 6 semaines de grossesse pour aller aux urgences et avoir une échographie parce que j'avais vu qu'on pouvait avoir un mouvement cardiaque à partir de 6 semaines d'aménorrhée.
Oui, effectivement, tu étais très bien renseignée.
Mais voilà.
En Belgique, vous n'avez pas d'échographie de datation, en fait. Vous devez attendre les 3 mois pour avoir une écho.
Non, alors on a l'échographie de datation a lieu aux alentours de 7 semaines. Et donc moi, c'était prévu en fait une semaine plus tard, mais pour moi, c'était impossible d'attendre une semaine de plus.
D'accord. Et donc, tu as été rassurée suite à cet écho?
Oui, complètement, ouais. Complètement, tout se passait bien. Et j'ai rencontré la gynécologue qui m'a suivie par la suite.
D'accord. Bah, c'est génial du coup, parce que t'en avais pas à ce moment-là, ouais. En fait.
Ouais, super. Non, je n'en avais pas parce que la mienne était à Bruxelles et c'était hyper compliqué d'accès. Et ça correspondait pas du tout à mes trajets de boulot. Je faisais énormément de routes et j'étais vraiment sur toute la Wallonie, mais pas du tout à Bruxelles.
D'accord.
Donc c'était vraiment compliqué de retourner dans Bruxelles.
Est-ce que tu peux me raconter comment ça se passe, le suivi de grossesse en Belgique, du coup?
Bah, mon suivi de grossesse s'est passé de manière, je pense, assez standard en tout cas. J'ai fait mon échographie de datation, mais qui n'est pas vraiment de datation. Hein, on sait un peu quand est-ce qu'elle est conçue, du coup, cet enfant.
Oui.
Et puis bah, ensuite, on enchaîne sur un suivi classique. On a un rendez-vous tous les mois, et puis après 6 mois, toutes les 3 semaines, et puis toutes les 2 semaines, le dernier mois. Globalement, rien de particulier. D'accord. Les 3 échographies, premier, deuxième, troisième trimestre. Vraiment rien de particulier.
D'accord. Même si tu l'avais anticipé, puisque tu savais que tu serais maman solo quelque part dans un coin de ta tête, comment on vit une grossesse quand on n'a personne sur qui s'appuyer, enfin personne, en tout cas pas un amoureux ou une amoureuse sur qui s'appuyer?
Alors il faut savoir que pendant ma grossesse, j'ai vachement tenu à mine de rien être entourée, parce qu'en effet je trouvais ça difficile de vivre un truc que je trouvais tellement beau et qui me mettait sur un petit nuage. Vraiment, moi pendant ma grossesse, j'ai vécu la grossesse idéale. Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'une nausée, j'ai pas eu de malaise, j'ai eu aucun mot de grossesse, donc vraiment, j'ai vraiment vécu
Quelle
une
chance.
Grossesse au top. Et j'ai trouvé ça très compliqué de pas partager ça avec quelqu'un.
Oui, c'est ça, c'est difficile, je pense.
Ouais, et donc j'ai décidé de vraiment inclure les gens que j'avais autour de moi, donc j'ai amené la marraine à une des échographies, j'ai tenu ma mère au courant de tout. Et en fait, j'ai décidé de tenir un carnet du début de ma grossesse jusqu'à ce que je... Maintenant, je le continue toujours, où j'écrivais régulièrement dans ce carnet, expliquais tout ce qui se passait. J'insérais les échographies, j'insérais les trucs, et donc j'écrivais beaucoup, en fait.
D'accord. Comment tu avais anticipé et préparé ton accouchement? Tu avais sûrement demandé à quelqu'un de t'accompagner ou tu l'as fait toute seule?
Alors, dans mon cas, en fait, j'étais assez proche de quelqu'un à ce moment-là. Avec qui j'ai eu une petite histoire durant ma grossesse, mais qui était vraiment et donc j'ai voulu être accompagnée par cette personne-là, parce qu'à ce moment-là, rétrospectivement peut-être que c'était une erreur, mais à ce moment-là j'avais pas envie que ma mère soit là, même si j'ai une excellente relation avec elle et même que je vis avec elle maintenant, parce qu'elle avait tellement eu l'image d'une femme très forte, d'une femme qui avait géré ses accouchements de manière hyper magistrale, et pour avoir vu la vidéo de ma naissance, incroyable,
oui.
Que j'avais peur d'être mise en concurrence avec ça et de ne pas pouvoir être à la hauteur.
Oui, c'est vrai que quand on a un idéal, c'est difficile.
Ouais, et donc j'ai décidé d'être avec cette personne-là, mais en fait, j'étais hyper contente d'avoir de la compagnie, surtout que mon accouchement a duré en tout 44 heures.
Waouh! 44 heures.
Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, j'étais contente d'avoir de la compagnie. Oui, mais 30 heures sans contraction. Hein.
D'accord.
J'avais fissuré la poche des os et j'ai été hospitalisée, donc j'ai patienté pendant 30 heures.
D'accord. Et oui, l'accouchement a duré 14 heures.
Oui, c'est ça. Mais j'ai dû lutter contre la menace d'un déclenchement, etc. Et ce qui, je le sais maintenant, est vraiment le truc le pire à faire, puisque toutes les hormones de stress, comme l'adrénaline, sont des antagonistes à l'ocytocine. Et donc forcément, quand tu es dans un environnement stressant où on te met des menaces, etc., ben en fait, ça bloque le processus d'accouchement et de progression de l'accouchement. Mais je ne le savais pas à l'époque. Bref, voilà.
Tu n'étais pas encore conseillère en parentalité?
Alors, ben, moi, je suis spécialiste en périnatalité, etc., mais je me suis beaucoup formée depuis. Me suis beaucoup, beaucoup formée en plus sur tous les processus physiologiques de la grossesse, etc. Je crois que dans une autre vie, et si j'avais le temps de refaire ça, je deviendrais aussi sage-femme.
C'est un beau métier.
J'ai acquis des connaissances beaucoup depuis, en fait, que je suis devenue maman. Ouais, c'est magnifique.
Oui, d'accord. Alors, comment il se passe cet accouchement?
Long, c'est le terme,
oui,
long, mais j'ai été encadrée par une équipe extraordinaire de sages-femmes. Et franchement, si j'ai vraiment une clinique à recommander, que ce soit pour la PMA ou pour les accouchements, en plus, moi j'ai fait un accouchement que je voulais absolument physiologique. Et elles m'ont suivie à fond là-dessus. J'avais fait un projet de grossesse que j'avais soumis à ma gynéco. Enfin bref, j'avais fait un projet de grossesse hyper positif, tu vois, pas dans je ne veux pas ceci ou je ne veux pas cela, mais vraiment dans le je souhaiterais qu'on m'aide à faire ceci ou cela, ce qui passe beaucoup mieux. Et j'ai été accompagnée par des sages-femmes qui étaient vraiment top, qui m'ont fait des massages avec des huiles essentielles pour favoriser le déclenchement des contractions, qui m'ont fait une séance d'hypnose quand je commençais à péter un câble, quand j'avais trop peur qu'on me déclenche et que ça finisse en césarienne. Enfin, tu vois le scénario catastrophe.
Oui.
Et donc, c'était super chouette. C'était vraiment très chouette. Et j'ai été, mais globalement, beaucoup seule au moment où j'aurais eu besoin d'être accompagnée. Parce que, en fait, alors que tout le 17 décembre 2017, il n'y avait personne à accoucher, le jour où j'ai accouché, on était 6 à accoucher. Et donc, en fait, tout le moment où moi j'ai commencé à douiller et avoir besoin de, peut-être de soutien, ben, en fait, il n'y avait pas besoin, il n'y avait personne pour me donner du soutien. Personne. C'est ça. Et puis j'ai essayé, je m'étais vachement renseignée sur les positions qui pouvaient aider, etc. Mais le fait est que j'avais dormi que 4 heures depuis mon arrivée à l'hôpital. Et donc j'étais très fatiguée. Et en fait, j'ai passé la plupart de mon accouchement debout, en fait. Parce que c'est la position où j'avais le moins mal.
Oui, mais après, c'est cohérent de se mettre dans la position dans laquelle on supporte le mieux. Hein.
C'est ça. Et voilà. Et donc, et sur les toilettes aussi. Ce qui rendait le truc très bizarre.
Oui.
Oui, parce que du coup, les sages-femmes arrivaient, elles me trouvaient aux toilettes, elles faisaient oh, « je repasse plus tard, je repasse plus tard », elles faisaient « non, non, je suis juste là pour me soulager, en fait
». D'accord.
Donc voilà, bref, les histoires rigolotes comme ça, et puis forcément, bah, les changements de garde qui se passent au moment où tu rentres dans le bain, et donc tu te retrouves totalement à poil devant la personne que tu rencontres à peine, voilà, ce genre de choses.
Classique, ça se passe toujours comme ça.
Classique. Mais sinon, globalement, voilà, ça a été long. Et j'étais hyper contente de réussir à tenir sans péridurale, ce que je voulais vraiment. Et mon accouchement s'est passé, en fait, globalement, très bien, quoi. J'ai pas eu de déchirure. J'ai pas eu l'impression d'être dans mon plein potentiel parce que j'étais très fatiguée à la fin. Mmh. Mais ça s'est très bien passé, globalement. Ma gynéco était là. Je n'avais pas de gynéco de garde parce que j'ai accouché un lundi et pas un dimanche. Et donc, je suis ravie. Et donc, elle m'a massé le périnée et tout. J'ai pas eu de déchirure. Donc, nickel. Franchement, j'ai vraiment pas du tout à me plaindre.
Ouais, c'est royal. Et alors, est-ce que l'arrivée d'Opaline t'a fait rentrer dans ce rôle de maman que tu tenais depuis un certain temps, finalement, puisque tu étais tellement renseignée et informée que je pense que ce rôle de maman, tu le tenais déjà depuis très longtemps. Est-ce que tu t'es retrouvée comblée? Alors, évidemment, l'arrivée d'un bébé, ça comble. Je pense que dans ton cas, c'était vraiment une attente forte depuis si longtemps que tu n'as pas dû être déçue.
Alors, non seulement j'ai pas été déçue, mais j'ai été totalement subjuguée. Subjuguée parce que moi, j'avais en plus de ça, en plus du côté parentalité, je m'étais à fond renseignée sur le maternage proximal. Mmh. Et donc, je me suis lancée à corps perdu là-dedans. Et je crois que le terme à corps perdu le convient bien, puisque c'est vraiment... Le corps devient un nid pour le bébé, il devient sa source de nutrition, il devient son moyen de réassurance optimal et total. Et donc, j'ai pu me plonger là-dedans totalement et de manière totalement épanouie. Et pour le coup, j'ai eu la chance de vivre un attachement immédiat, de ne pas avoir de délai, comme peuvent avoir certaines femmes. Mmh. Et c'était très, globalement, très facile.
Ouais, tu m'étonnes. C'est, enfin, quand ça se passe comme ça, que tout se déroule... comme sur des roulettes, ce sont des moments magiques. Enfin, tu n'as que le bon côté des choses, en fait.
Ouais, c'est ça. Alors évidemment, bon, il y a des trucs qu'on découvre sur le tas, hein, les super contractions de tranchées quand le bébé tète, hein, mm-hmm. Voilà. Mais globalement, tout se passait bien. J'avais un bébé qui, comme j'étais très renseignée sur l'allaitement aussi, et que j'étais entourée de sages-femmes qui s'y connaissaient vraiment. Ça aide beaucoup aussi, puisque j'ai voulu vraiment bien mettre mon allaitement en route et que ça s'est passé très bien aussi. Et ça, c'est un truc qui me tenait beaucoup à cœur. Et ça se passe très bien, puisque je continue à allaiter ma fille de 28 mois.
Ah oui. Ouais, t'as un allaitement long, c'est magique. Hein, quand ça se passe comme ça, c'est génial.
Ouais, tout à fait. Moi, je voulais un allaitement non écourté, ouais.
Est-ce que c'est depuis la naissance d'Opaline que tu as choisi cette carrière de conseillère en périnatalité?
Alors, complètement. J'étais dans autre chose qui m'avait apporté une stabilité, une sécurité, mais dans laquelle je ne m'épanouissais pas du tout. J'ai fini en burn-out à la fin de ma grossesse au niveau professionnel. Mmh. Et clairement, en quittant pour mon congé mat, j'avais déjà prévu de prolonger par un congé supplémentaire, plus des congés sans solde. J'avais déjà fait une cagnotte, j'avais fait des grosses économies pour ça. Mmh. Et je ne savais pas quand je reviendrais exactement, mais le projet était quand même de revenir. Le fait est que j'ai été incapable de reprendre dans ce schéma de travail-là, qui ne m'épanouissait pas, alors que moi, j'avais découvert une façon d'être avec mon enfant qui était d'être authentique et de lui dire que le monde pouvait être celui qu'elle voulait et qu'on pouvait faire des choix et qu'on ne devait pas se contraindre à des choses sans que ce soit authentiquement quelque chose qu'on veuille. Alors, il y avait des conséquences, hein, mais il y a toujours des conséquences aux choix qu'on fait. Mais moi, je ne pouvais pas dire à ma fille, je veux t'offrir le plus beau monde qui soit, et d'un autre côté, je passe 8 heures par jour à bosser dans un truc que je déteste.
Oui, c'est sûr que ce n'est pas cohérent. Est-ce que tu sais si en Belgique, comment ça se passe en fait en Belgique pour... Alors là, t'es dans le cadre d'une parentalité en solo, donc du coup, t'as eu un livret de famille, tu es maman biologique, donc ton livret de famille avec ta petite Opaline. Si tu avais été en couple, comment ça se passait pour la deuxième maman?
Alors c'est en fait beaucoup plus simple en Belgique depuis pas mal de temps. Mmh. Alors en Belgique, on n'appelle pas trop ça un livret de famille. Je crois que c'est la composition de ménage. Enfin, il y a la composition de ménage et il y a un truc, mais ça c'est pas exactement un livret de famille. Je t'avoue que j'ai un peu oublié. Il y a l'extrait de naissance en fait qui comprend en fait les parents. Et moi en fait, je l'ai déclaré seule, donc je suis seule sur l'extrait de naissance. Si j'avais été en couple, en fait, l'avantage en Belgique, c'est que depuis, je crois que c'était depuis l'année précédente, donc 2016, je pense, la mère sociale, si elle en est en couple et qu'elle déclare le bébé avec la mère biologique, est considérée comme mère au même titre que la mère biologique. Donc c'est beaucoup plus facile maintenant. Alors que j'ai une copine qui, quand son fils est né en 2014, si je me trompe pas, non, 2014, elle a dû, elle, quand même adopter son premier fils.
Oui, donc il y avait aussi ce système d'adoption en Belgique avant, et
ouais.
C'est assez positif pour nous, parce que concrètement, on voit que les choses ont pu avancer en Belgique, donc il y a des chances que ça avance en France aussi à un moment donné, en tout cas ça se fait quoi.
Ouais, ça se fait, et ça se fait très facilement. Aujourd'hui, vraiment en Belgique, c'est vraiment un truc qui est hyper facile, et ça c'est vraiment chouette pour les couples homosexuels.
C'est même une évidence, parce que honnêtement... Enfin, pour moi, je pense, comme pour beaucoup, c'est hyper délicat, surtout sur une période où on a les hormones en chute libre, de s'entendre dire qu'on peut ne pas être la... Enfin, en tout cas, que sa femme n'est pas reconnue comme étant la maman des enfants. C'est très compliqué.
Moi, c'est un truc que je trouve aberrant. Et pour être très honnête, moi, c'était une des craintes que j'avais en revenant en France. C'est le jugement que j'aurais par rapport à ma parentalité en France, par rapport à celle que j'avais en Belgique. En Belgique, on me disait que j'étais une maman courageuse de faire ça seule. En France, les regards sont très différents.
Oui, mais c'est vrai que les Belges sont toujours... Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai, c'est qu'ils ont une vision des choses beaucoup plus positive que nous, les Français. Hein.
On est beaucoup plus relax, et j'ose dire « on » parce que moi, j'ai encore ma nationalité belge et je pense la garder. Parce qu'en plus de ça, ma fille là, et je ne me verrais pas laisser ma fille juste avoir sa nationalité belge et pas moi.
Oui, puis tu as vécu tellement longtemps en Belgique.
Oui, c'est ça. Et puis vraiment, moi, je suis vraiment ancrée là-dedans. Mm-hmm. Et donc, ils ont vraiment une espèce d'humour d'autodérision plutôt chouette et de tout voir les choses un peu plus cool. Et puis, il y a un truc très dubuesque aussi. Globalement, quoi. C'est le pays du surréalisme, mais ça se ressent à pas mal de trucs. Donc aussi dans la coolitude des choses.
Ouais. Et donc, du coup, Opaline a grandi en partie en Belgique. Tu as pris la décision de rentrer en France. Est-ce que c'est un rapport avec ton métier ou avec ta famille qui est peut-être en France maintenant?
Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que ma mère est repartie de Belgique en 2015. Ma sœur a suivi en 2016, pas du tout au même endroit au départ. Et puis finalement, en fait, elles se sont rejointes ensemble à Guérande en 2017.
Mmh. Oui, c'est très joli Guérande, donc je peux comprendre.
Tout à fait. Maintenant, je vis au plein centre de Guérande, donc oui, je confirme.
Donc toi, tu t'es retrouvée maman?
J'ai pris la décision de rentrer parce que j'avais pas envie que ma fille grandisse éloignée de toute sa famille.
D'accord.
Et en plus, sans avoir de deuxième parent, quoi. Et je trouve que du coup, l'environnement social était assez faible et pas assez peut-être étendu. Enfin, moi, ça ne me correspondait pas à ce que je voulais offrir à ma fille, en tout cas. Et donc, j'ai pris la décision de rejoindre ma mère et ma sœur, avec qui, globalement, j'ai des bonnes relations. J'ai pris surtout la décision de vivre vraiment dans une maison intergénérationnelle, donc je vis avec ma maman, pour permettre à ma fille de créer une relation très forte avec elle et d'avoir aussi la possibilité de développer mon activité. Parce qu'en Belgique, c'était totalement impossible pour moi de développer une activité parce qu'il n'y a pas de système comme auto-entrepreneur en France. On doit payer des charges sociales qui sont hyper chères tout par trimestre avant même d'avoir la moindre activité. Et donc, c'était pour moi même impossible en fait à mettre en place.
D'accord. Et est-ce que tu envisages ou est-ce que tu as réfléchi à donner un petit frère ou une petite sœur à Opaline?
Alors, très sincèrement, ce n'est pas dans mes projets du tout. Même si je dois bien admettre que ça veut dire que je dois faire un trait sur l'expérience que j'ai vécue.
Oui, complètement.
Ça fait très bizarre pour moi de me dire que je ne pourrais pas revivre une grossesse, que je ne pourrais pas revivre un accouchement, que j'aborderais sûrement très différemment, et je pense même que je partirais pour un accouchement à la maison si j'avais l'occasion. Et évidemment, si toutes mes constantes étaient bonnes, hein, c'est toujours pareil. Mais en fait, j'ai décidé, moi, que ma vie tournerait ensuite vers autre chose, parce que je ne peux pas me permettre, moi, en tant que maman solo, indépendante, et devoir assurer financièrement, de refaire une pause aussi longue que ce que j'ai fait avec Opaline. Et je trouverais ça, ce côté un peu injuste, de ne pas lui pouvoir proposer au second enfant la même chose que ce que j'ai fait pour elle. Et
d'accord.
Voilà.
Est-ce que cette décision, elle est réfléchie dans le cadre d'un couple potentiel, puisque je pense que ne t'interdis pas de rencontrer quelqu'un. Comment t'envisages en fait ta famille si tu rencontres quelqu'un?
Alors ça, c'est une très bonne question, dans le sens où réellement, je n'envisage pas du tout de me mettre en couple avec quelqu'un, vraiment, déjà franco comme ça. Et je n'envisage pas du tout de cohabiter avec quelqu'un à nouveau.
D'accord.
Dans le sens où je pourrais être en couple, mais je pense que je ferais toujours habitat commun, parce que dans les gros couples que j'ai pu avoir, en fait, à chaque fois, ce qui bloquait, c'était en fait la routine quotidienne qui se mettait en place. Et je pense que si je devais être en couple à nouveau, je partirais pour quelque chose qui n'est pas, en tout cas, axé dans une routine sous le même.
Oui, ce que je peux comprendre aussi. Non, mais c'est vrai que c'est une vision des choses qui est très intéressante, parce que au moins tu te garantis de ne pas. Oui, effectivement, de ne pas tomber dans la routine. Alors, après, on aime ou on n'aime pas la routine, mais au moins, tu es sûre de te prémunir de ça.
C'est ça. Et puis, il y a aussi le côté, j'aurais sûrement un peu peur d'imposer à Opaline des choses et des visions, par exemple, de parentalité que j'aurais pas envie de lui proposer. Et donc, je préfère qu'on ait notre chez-nous à nous, et puis que si j'ai des choses à faire à l'extérieur, ben, je les fasse.
Oui, ce qui est honorable. Est-ce que tu as commencé à en discuter, enfin à raconter à ta fille son histoire? Est-ce qu'elle se pose des questions? Parce que c'est vrai que tous les livres sont quand même très hétéronormés, notamment il y a toujours au moins un deuxième parent et très souvent un papa.
Oui, alors ça c'est un truc avec lequel je suis à la fois très à l'aise et pas du tout à l'aise, pour être très honnête. Je lui en parle, je lui ai toujours parlé, je lui ai toujours dit, je parle de donneur devant elle. Je lui dis que d'ailleurs, c'est grâce sûrement à un très gentil Danois qu'elle est là. Et en plus de ça, elle est blonde, sous-brune. Donc vraiment, elle a pris le groupe sanguin de son géniteur en plus. Donc voilà, elle n'a pas le même groupe sanguin que nous. Donc déjà, voilà. Mais par rapport au bouquin, j'essaye de trouver des trucs qui sont un peu alternatifs. Donc je cherche vraiment des bouquins qui correspondent et qui montrent des visions de la parentalité et de la vie globalement très inclusive et très diversifiée, parce que je suis je trouve très important qu'elle puisse savoir que son modèle familial existe. Et c'est comme ça que je suis tombée sur plusieurs livres, dont Camille veut une nouvelle famille, qui parle des différents modèles familiaux. Et donc, j'essaie de lui parler des différentes choses et des différents modèles qu'on a autour de nous déjà aussi. Et voilà, en gros, c'est assez clair. Après, elle a 28 mois, elle ne se pose pas encore de questions. Je sais qu'il va y avoir un moment où il y aura un déclic, où la pièce va tomber. Mais voilà, j'attends de savoir où on va quand.
Je pense que, de toute manière, en tout cas, c'est ce que je perçois moi dans ma famille. Les enfants ne se posent pas de questions tant qu'on ne leur en pose pas, finalement. Donc, pour eux, c'est une normalité, leur famille. Mm-hmm. C'est plutôt le reste qui n'est pas normal. Et c'est vraiment au moment où ils se rendent compte que donc c'est souvent avec l'école et encore même un peu au-delà des premières années qui commencent à se rendre compte que... ils sont peut-être un peu différents de leurs camarades, mais pour autant, ils le vivent en général très bien.
Oui, c'est ce que je peux constater autour de moi aussi. Et de toute façon, dans toutes les recherches que j'ai faites, dans toutes les études que j'ai faites, parce que mine de rien, il y a eu tout un gros débat à une époque, hein, avec le mariage pour tous, les gros débats qu'il y a eu en France. Et donc, je me suis quand même beaucoup renseignée. J'ai regardé les études qui avaient été faites sur le sujet en psychologie, etc. Et force est de constater qu'il n'y avait aucun problème avec les enfants issus de parents homosexuels, parce que, obligatoirement, ce sont des enfants qui sont extrêmement désirés. Et donc, souvent, ça se passe globalement très bien. Les enfants sont globalement bien. Et donc, en soi, je n'avais pas beaucoup de craintes par rapport au développement de ma fille dans ce cadre-là.
Non, c'est vrai que... En tout cas, c'est ce qu'on constate, et même ce que je constate là au fur et à mesure des podcasts. Bon, après, les enfants sont relativement petits en général, parce que j'ai pas encore réussi à avoir accès à la génération précédente d'enfants. Généralement, les enfants sont heureux, mais vraiment heureux. Et je pense que tout vient du désir profond que l'on a de les concevoir, de cette attente qu'on a vis-à-vis d'eux, alors pas dans le mauvais sens du terme, hein, mais de cette attente d'eux-mêmes qu'on va avoir.
Oui, ça, du désir, oui.
Exactement. Je vais te poser une question que je pose traditionnellement maintenant dans mes épisodes. Est-ce qu'un enfant peut être heureux avec une maman solo ?
Je pense que globalement, oui. Je vois ma fille se développer au quotidien et je pense que tout le monde peut dire que c'est un vrai rayon de soleil. J'ai la chance d'avoir un enfant avec qui tout s'est toujours très bien passé. J'ai une chance. Je ne sais pas si j'ai une chance folle ou si c'est grâce au fait que j'ai fait un maternage proximal intense.
Je pense que le maternage proximal joue beaucoup.
Voilà. Et donc, ça se passe vraiment super, super bien. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu, quand j'ai vu tous les bénéfices que ça avait chez moi, mais aussi chez les gens que j'ai pu avoir dans mon entourage, que j'ai voulu absolument travailler sur ce domaine-là, communiquer sur ce sujet-là, écrire sur ce sujet-là. C'est pour ça que j'ai lancé un blog quand elle avait 4 mois, etc. Et donc, je pense que sincèrement, oui, un enfant peut être heureux dans quel que soit le contexte, tant qu'il est aimé, désiré, choyé et qu'il peut avoir des figures d'attachement solides.
Tu accompagnes dans le cadre de ton métier des parents solos ?
Alors oui, tout à fait. C'est d'ailleurs un truc qui revient souvent, c'est que moi je peux facilement accompagner des parents solos parce que les gens se... Je vais pas dire qu'ils s'identifient à moi, hein, c'est pas l'objet.
Oui.
Mais vraiment qu'ils peuvent se dire que moi je vais comprendre le projet et que je ne suis pas les personnes qui vendent des super programmes, qui se présentent comme une famille unie avec papa, maman et les enfants habillés en Cyrillus. sans du coup juger les gens qui habillent leurs enfants en Cyrillus, hein, mais en gros, je ne suis pas le modèle familial traditionnel. Et donc, très ouvert à la tolérance et à toutes les choses alternatives.
D'accord. Est-ce que tu as la sensation que c'est un modèle familial qui se développe de plus en plus, ou pour toi ça reste relativement marginal? Je sais pas si le mot est bien choisi, mais...
Alors moi, dans ce que je vois là, il y en a, mais souvent c'est des mamans solo qui sont plutôt dans des circonstances, c'est plutôt subi, tu vois, c'est des mamans qui ont été malheureusement abandonnées par les conjoints, ou le conjoint est décédé, ou des choses qui sont pas très fun. Ça existe, j'avais rencontré à l'époque où j'avais 18 ans une jeune femme qui avait 19 ans, qui avait été en Barcelone, à Eugene, faire une insémination à 19 ans, et est devenue maman solo à ce moment-là. Donc je pense qu'il y en a. Maintenant, j'ai pas une perspective totale. Moi, je vois ce qui vient à moi aussi. Mm-hmm. Et donc, je saurais pas dire sociologiquement ce qui se profile. Je pense que c'est quelque chose qui va pouvoir se développer. Parce que je pense qu'il y aura moins de craintes. Et puis, plus il y a de modèles, plus forcément, plus il y a de modèles positifs, plus on se dit que c'est possible.
Oui, exactement.
Et pour autant, je n'ai pas non plus la volonté de me dire que le couple va péricliter sous peu. Vraiment, je ne le crois pas du tout. Et je ne crois pas non plus que, par exemple, ce que je veux, ce n'est pas une société sans hommes. Quoi. Vraiment, ce n'est pas du tout ça. Je n'ai pas non plus une société sans père. Ce n'est pas du tout ça non plus. C'est juste que c'est une possibilité parmi d'autres, quoi. Voilà.
Oui, complètement. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a certaines personnes certaines femmes, je dirais plus précisément, qui se freinent parce qu'il y a une norme sociale qui veut que l'enfant, il naisse dans un couple, qu'il soit, plus précisément dans un couple homme-femme, mais bon, maintenant, dans un couple, c'est quand même assez normé, tu vois. C'est vrai que je pense que la maman solo qui fait son enfant pour elle et parce qu'elle a envie d'un enfant, sans forcément inclure une deuxième personne, il est encore relativement rare, ce modèle-là.
Alors, c'est le cas aussi parce qu'on dit souvent qu'un enfant est issu du désir de deux parents et de l'amour de deux parents. Et il y a ce côté-là très biblique de « on doit s'aimer et se connaître bibliquement pour pouvoir concevoir un enfant de nos deux chairs ».
Oui, c'est vrai.
Et c'est très beau et c'est quelque chose que je pense que j'aurais aimé vivre, sincèrement. J'aurais aimé pouvoir un jour être enceinte d'une personne dont j'aurais partagé le patrimoine génétique, et je trouve le concept ravissant. Sur le papier, c'est très joli. Vraiment, je trouve ça vraiment chouette. D'un autre côté, moi, c'est pas comme ça que je me projetais, c'est pas comme ça que ça a pu se faire, dans tous les cas. Hein. Je fais pas encore de la parthénogenèse, donc c'est pas possible.
Ah bon ?
Et voilà, c'est fou, hein, ce manque de compétences.
C'est fou. Ouais.
Et donc du coup je me dis que voilà, c'est un modèle qui est comme un autre, et qu'on a quand même le désir d'avoir des enfants, et que de toute façon le désir d'enfant, il est par essence égoïste. On n'a pas d'enfants, c'est considéré comme égoïste. On a des enfants, c'est considéré comme égoïste. Dans tous les cas, on est égoïste parce qu'on a voulu un enfant. On veut, oui, et puis on veut un enfant, c'est vrai qu'on veut un enfant. On veut ce que ça projette, on veut ce que ça renvoie, on veut peut-être l'image sociale que ça renvoie, je sais pas, ça dépend des personnes. Mm-hmm. Mais voilà, et c'est très chouette de vouloir un enfant. Moi, je suis hyper heureuse d'avoir été désirée par ma maman. Voilà.
Mais c'est vrai que je pense qu'on veut tous un enfant pour des raisons différentes, mais je pense que l'amour prime quand même énormément dans tout ça.
Oui, bien sûr.
Et je pense que c'est génial d'arriver à passer outre les schémas sociaux pour concevoir son enfant si on ne souhaite pas le partager. Enfin, c'est pas très joli de dire ça comme ça, mais on a des fois pas envie, on a envie de faire un enfant pour soi et pour l'éduquer avec soi, pour l'accompagner, et pas forcément d'y intégrer une personne complémentaire.
Ouais, et moi ce qui me faisait très peur, pour être très honnête, c'est les conflits de couple et ce que ça pouvait générer comme répercussions sur l'enfant.
C'est vrai que c'est à prendre en compte.
Ouais, moi je l'ai vécu en fait, mais assez plus tard, tu vois, j'avais 6 ans quand mes parents ont divorcé, et je l'ai vécu peut-être différemment. Mais j'ai autour de moi des gens qui se sont séparés tôt, où il y a des conflits en termes de valeurs, etc. Et sincèrement, je me dis, ouais, c'est quand même une chance que moi, j'ai pas vu ça, quoi. Et que ma fille, du coup, s'est pas prise là-dedans. Donc ça, c'est un côté quand même où je suis assez contente. Et c'est pour ça que je prône pas ça du tout. Hein. Je dis pas que c'est mieux qu'autre chose. Je dis juste que moi, c'est quelque chose que j'avais pas envie de m'infliger.
Oui. Que je peux comprendre complètement. C'est vrai que c'est une partie du couple, une partie de la famille qui n'est pas enviable en fait. Et malheureusement, ça arrive. Et heureusement, les enfants s'en remettent très bien parce qu'ils sont très résilients. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout, que personne n'a envie de faire vivre à ses enfants de façon certaine.
C'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça que moi, quand je propose au couple de venir, quand il y a des processus parcours de PMA, mais pas uniquement, quand il y a un désir d'enfant, je propose au couple de venir pour parler vraiment à bâton rompu de ce que va être la parentalité, surtout dans les premières années, parce que ça change beaucoup de choses et qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se jouent, et pendant la grossesse et pendant les premières années de vie, pour que les gens soient vraiment mis au parfum et qu'ils puissent se questionner sur ce qu'ils vont transmettre et sur ce qui risque de se passer, qui est qu'on a des idées arrêtées, qui peuvent être totalement mises à mal, qu'il peut y avoir des flottements dans le couple qui peuvent durer plus ou moins longtemps. Et donc, j'essaie vraiment de préparer les couples à ça. Parce que anticiper, moi, je me suis rendu compte pour moi-même, mais quand tu es informé de ce qui peut se passer, tu passes au-delà et tu vas chercher d'autres infos complémentaires que tu n'aurais pas forcément eues si tu n'avais pas eu ces informations-là. Quoi.
Oui, et puis quand tu es informé, tu te dis, enfin, tu as le recul, du coup, la présence d'esprit de te dire, ah oui, je suis dans cette période-là, on m'en avait parlé, je le sais, donc maintenant je vais pouvoir agir en conséquence. Mais quand tu n'es pas informé, ben tu te retrouves prisonnier d'un cycle, parce que finalement c'est cyclique, tu te retrouves prisonnier d'un cycle, et si tu ne sais pas que c'est un cycle, tu fais tout voler en éclats.
C'est exactement ça, et c'est pour ça que moi j'ai hâte que la France évolue un peu sur sa vision de la psychologie aussi dans les années à venir. Aux États-Unis par exemple, c'est hyper fréquent que les couples, que les femmes, que n'importe qui aille voir un psy juste pour dire « Ok, là, je suis dans cette période de ma vie, j'aimerais bien mettre un peu les trucs au clair », ou que les couples viennent juste pour s'assurer que tout continue à aller bien et que tout soit dit de manière non heurtante à l'autre, mais que tout soit dit au fur et à mesure.
Mm-hmm. Ouais, c'est vrai que ce serait hyper important. Et c'est vrai que moi, c'est ce que j'avais identifié en fait dans le rôle de la psychologue que nous avions vu en Belgique, et qui, je pense, alors effectivement en France c'est hyper mal perçu. Moi la première, je m'étais dit non mais pourquoi on a besoin d'une autorisation. En fait, en Belgique en tout cas, c'est pas comme ça qu'ils le vendent, et au contraire, ils t'accompagnent, ils t'aident à te poser des questions. Alors évidemment, en deux rendez-vous, tu fais pas des miracles, mais par contre, ça te met déjà le doigt sur certaines choses, et je trouve ça finalement hyper intéressant d'avoir intégré dans le processus de PMA ce suivi psychologique.
Alors, moi, ce que tu vas trouver fou, c'est que c'est en écoutant tes épisodes que je me suis rendu compte qu'en fait, en effet, ce n'est pas qu'au couple homosexuel qu'on propose un entretien psy. Moi, on ne me l'avait pas dit.
D'accord.
Et il faut savoir que je l'ai aussi assez mal vécu, ce côté de devoir passer chez une psy. Parce qu'en plus de ça, j'ai été voir quelqu'un qui m'avait été suggéré par le CHR. Mmh. Et la nana était un peu étrange. J'ai pas eu un hyper bon feeling avec elle. Alors, c'est un peu particulier parce que comme je suis psy, forcément, il y a des trucs que je connais, tu vois. Et en fait, elle m'a donné un rapport, après ça, un premier entretien, qui contenait le fait que j'étais trop enthousiaste à l'idée d'être maman.
Oh. D'accord. C'est étrange, ça.
Ouais. Voilà. Je suis quelqu'un d'extrêmement enthousiaste. Je n'en dis qu'on vient vraiment pas, c'est vrai. Mais c'est dans ma personnalité, c'est mon tempérament
qui est comme ça.
Et donc, de voir ça écrit noir sur blanc, c'est super bizarre. Et la clinique m'a demandé d'avoir un deuxième entretien. Parce qu'eux demandaient minimum 2 entretiens. Et donc, j'ai dû retourner là-bas. Et je me souviens même plus du contenu réellement. Jusqu'il y a eu un deuxième rapport qui disait « Bah oui, elle a bien perçu les enjeux que contenait la démarche, etc. Elle se sent prête à être maman et basta. » Mais c'était quand même très bizarre de voir écrit noir sur blanc « Oui, la future maman est trop enthousiaste. » Alors je disais en rigolant, bah, la prochaine fois je viendrai en pleurant, mais je ne sais pas. Voilà.
Oui, je suis pas sûre que. Je pense que tu aurais eu aussi un avis un peu dégradé.
Oui, mais. Enfin. Mais oui, c'est ça. Après, je me dis, voilà, de toute façon, c'est un feeling et je pense qu'il ne faut pas. Ils ne sont pas là pour censurer, ils ne sont pas là pour bloquer, ils sont juste là pour avertir. Et évidemment, je pense qu'il y a des cas pathologiques qui existent, des conflits de couple qui existent et que ça peut être une bonne chose parfois d'en parler, quoi.
Ouais, complètement. Complètement. Et puis, ça permet de mettre le doigt sur, sur ce qui va se passer par la suite, en fait. Parce que c'est vrai que nous, on est toujours enthousiastes, on est dans notre projet, on voit le court terme, mais on voit, ou en tout cas, on n'envisage pas tout de suite le long terme ou le moyen terme. Et c'est vrai que des fois, c'est bien de nous ramener aussi à la réalité, de nous dire, attendez, c'est pas, on va pas vous mettre un frein, hein, enfin, vous allez faire ce que vous voulez, entre guillemets. Mais par contre, les questions qui peuvent se poser, c'est ça. Et comment vous envisagez d'y répondre en fait et du coup ça te projette un peu plus loin que le premier rendez-vous finalement.
Oui, tout à fait. Alors moi ce que je regrette un petit peu rétrospectivement et de ma position de psy maintenant en périnate en plus, c'est qu'on parle beaucoup de l'après, de quand on aura des enfants, mais on parle pas du tout ou très peu du parcours et de la difficulté du parcours.
Ça c'est vrai. C'est vrai que j'ai pas le souvenir qu'on nous ait dit et ça peut être difficile, il peut y avoir des échecs. Contrairement à l'Espagne, où a priori, t'as un psy qui t'accompagne pendant le parcours. Tu peux avoir accès à quelqu'un qui t'accompagne.
Mais ça, je trouverais ça vraiment génial. Et sincèrement, la seule chose que je peux conseiller à tous les couples qui passent par la PMA, notamment, hein, ou même par une grossesse difficile, etc. D'ailleurs, je mets souvent des petits des petites stories sur Instagram en disant « Vous êtes maman, alitée, en menace d'accouchement précoce, etc. Contactez-moi, vous pouvez ne pas rester seule. » Parce que ça peut être très compliqué et très difficile à vivre. On peut avoir la peur au ventre pour une hystérosalpingographie. On peut avoir la trouille de devoir découvrir un polype et de voir que sa procédure de PMA prend un coup dans l'aile. Mm-hmm. Et moi, là, je pense à toutes les mamans aussi qui étaient en parcours PMA, qui ont un âge limite et là, qui se retrouvent bloquées.
Oui, complètement.
Et donc, c'est un vrai cas et ça peut être vraiment difficile à prendre en charge ça. Et on a le droit d'être totalement désespéré de ça. On a le droit de considérer que son corps nous fait défaut. Et je pense que ça peut faire vachement de bien d'en parler à quelqu'un qui ne va pas juste dire « Mais non, ça va aller. » Parce qu'on aimerait tous que ça aille. Mais le fait est que...
Ça ne va pas toujours.
Se faire juste rassurer sans écouter vraiment jusqu'au bout, ça ne permet pas de solutionner ce qu'il y a derrière, quoi.
Mmh. Complètement. Complètement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Natacha ?
Alors, j'aimerais vraiment que la relation avec ma fille continue d'être aussi chouette et qu'on continue à être dans une relation intergénérationnelle dans la maison aussi agréable que ce qu'elle se profile d'être pour l'instant. Je trouve ça super chouette de voir ma fille et ma mère évoluer ensemble et d'avoir un trio là sous notre toit et un quatuor comme ma sœur vient nous voir. Je trouve ça vraiment chouette. Ça, c'est mon point de vue personnel. D'un point de vue pro, j'aimerais que... mes projets prêtent de l'ampleur, j'en ai plusieurs sur le feu, tant en termes de rédaction que formation. Et j'aimerais vraiment que je puisse faire grandir le réseau parentage proximal que j'ai créé pour qu'il y ait vraiment une bienveillance qui puisse transcender la périnatalité et la parentalité globalement. qu'on puisse se rassembler autour de valeurs qui soient vraiment des choses agréables pour tout le monde et qui puissent vraiment aider les parents au quotidien. Parce que je pense que c'est ça aussi, c'est que parfois on peut remettre en question ce qui se passe dans la culture et dans la société occidentale et que ça peut être vraiment chouette de remettre ça en question pour vivre ça de manière beaucoup plus sereine. Et voilà, donc ce que je me souhaite, c'est ça.
Et c'est ce que je te souhaite aussi, et je souhaite aussi du coup guider nos auditeurs vers notamment ta page Instagram qui est assez complète et qui décrit bien en fait quelles sont toutes tes casquettes, puisque tu as de multiples casquettes. Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment très important de libérer la parole, d'ouvrir, de parler de toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, parce que oui, la maternité c'est quelque chose de magique, mais c'est pas magique tous les jours, et on peut se sentir débordé, on peut se sentir seul, on peut se sentir pas accompagné ou mal accompagné par peut-être son entourage. Mais par contre, il y a des gens qui sont là pour accompagner, pour guider, pour rassurer, et tu fais partie de ces gens-là. Et je pense que en plus de ça, toi, avec ton expérience perso, tu peux clairement guider. T'as un biais qui permet aussi d'accompagner des personnes qui sont des couples homosexuels ou des personnes qui sont en famille monoparentale. Tu sais de quoi tu parles, en fait. Et du coup, je pense que c'est vrai, c'est un vrai plus pour nous de nous orienter vers toi.
Bah écoute, c'est ce que j'espère. Et en plus de ça, ce que j'essaie de mettre en place aussi, c'est soit en présentiel, soit en téléconsultation, parce que je travaille beaucoup en téléconsultation. Ça fonctionne plutôt pas mal. C'est de faire parfois des ateliers collectifs avec entre amis ou avec la famille proche pour mettre à plat des informations, pour que tout le monde ait la même information en même temps, pour que dans un cercle de proches qui va par exemple être confronté à une nouvelle parentalité ou des amis qui ont pas mal d'enfants rapprochés, qui puissent partir avec un peu les mêmes bases de connaissances et pouvoir se supporter les uns les autres avec des connaissances communes. Donc ça, c'est des trucs que je propose aussi. D'accord. Et au niveau de l'homoparentalité, ouais, évidemment, parce que c'est pas forcément facile de trouver des pros qui sont des jugements. C'est un fait, je pense qu'on peut malheureusement pas le nier. Et donc ce que j'espère, c'est de pouvoir aider tous les couples dans toute la singularité qu'ils ont et toutes les personnes aussi, pour les mamans solo, ou les parents, ou le père, les pères solo, parce qu'il ne faut pas les oublier non plus. Il y a des papas qui se retrouvent solo. Et donc, il faut aussi pouvoir les écouter, parce que c'est pas parce qu'ils sont pères qu'ils ont plus de super pouvoirs que les autres, c'est sûr.
ce serait génial si on pouvait les avoir, ces super pouvoirs tous. Mais je pense que de se faire accompagner, c'est déjà un super pouvoir. D'accepter d'être accompagné, c'est un super pouvoir. Je te remercie beaucoup, Natacha. C'était un échange vraiment très enrichissant. J'ai découvert beaucoup de choses de mon côté. Je pense que ça va être le cas aussi de nos auditeurs. Je te souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Mais enfin, c'est cliché de dire ça, mais voilà, t'as une très belle histoire. J'ai l'impression que ta relation avec ta fille est de l'ordre de l'exceptionnel. Et honnêtement, je te souhaite que tout cela continue. Merci beaucoup, Natacha. À très bientôt.
Merci beaucoup, Constance.
À bientôt. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir le podcast en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et plus particulièrement sur Apple Podcast afin de lui donner plus de visibilité. N'hésitez pas à le partager, à le faire découvrir. Plus nous gagnerons en visibilité, plus nous aiderons d'autres familles à se construire et ainsi nous normaliserons les nouveaux schémas familiaux. Peut-être aurons-nous aussi la chance de pouvoir rassurer et montrer la voie aux nouvelles générations. Vous retrouverez en note de cet épisode le compte Instagram de Natacha, @lacuriositébienveillante, ainsi qu'un lien vers son site internet professionnel. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à vendredi prochain pour écouter un nouvel épisode du podcast Les enfants vont bien. Josephine, even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest, so I grab what I can cling to and I leave behind the rest. I'll hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own.
Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.